Autre sujet abordé qui va faire plaisir à Patounet, hein, c'est le plan loup. Plan loup 2024-2029. Hein. Alors, il y a 8 départements, donc alpins, qui ont fait 8 propositions pour sauvegarder le pastoralisme. Alors, tu en fais partie, oui, évidemment, Jean-Marie, avec Éliane Barreille pour nos 2 départements. Et il y a aussi les Alpes-Maritimes, la Drôme-l'Isère, le Vaucluse, la Savoie, la Haute-Savoie, qui ont co-signé donc cette tribune. Alors, parmi les propositions, donc révision du statut du loup, mise en place d'un statut du chien de protection d'ici donc l'année prochaine, l'autorisation plus tôt dans la saison de tir de prélèvement pour mieux anticiper les attaques. Voilà quelques propositions que vous avez fait. Vous êtes tous tombés d'accord là-dessus? Bon, ça a été rapide?
Non, mais c'est le plan loup qui a été proposé par les services de l'État aussi, qui a été, donc il faut pas dire on est contre tout. Il y a des choses qui sont un peu positives, mais on va pas au fond du débat. Enfin, le fond du débat aujourd'hui, c'est de dire combien il y a de loups.
Ah ben on sait pas. Hein.
Mais non, mais il y en a 1024. Il y a des gens de l'OFB justement. Ils sont sûrs. Ah, ils sont sûrs. Ils sont sûrs.
Ils sont sûrs de ce qui reste.
Voilà. Non, mais ces gens-là, on devrait les mettre. Je veux dire, quand il y a une manifestation en ville aujourd'hui, mais on fait compter par les policiers, on fait compter par les syndicats.
On va faire compter par eux.
Ah, il faudrait prendre l'OFB parce que eux, ils se trompent jamais. Ils se trompent jamais.
Ben là, la Suisse a déclassé le statut du loup. Hein. Il est plus considéré comme un animal protégé.
L'Espagne le demande aussi.
L'Espagne le demande aussi. Et ouais, c'est en train de bouger les lignes. Mais c'est vrai que le statut du loup au sein de la communauté européenne, c'est une catastrophe, quoi, en termes de statut, en termes d'intervention, ne serait-ce que pour les agriculteurs, entre les tirs de défense, les battues qu'il puisse y avoir. Les personnes qui sont agréées à le tirer, moi j'ai passé une habilitation au sein de la fédération de chasse, mais on ne t'appelle jamais, quoi. J'ai l'impression que c'est pour un peu calmer les esprits, ouais. Et quand tu veux faire tomber un arrêté pour qu'un paysan puisse tirer ou faire appel à des lieutenants de louetterie avec des équipes renforcées pour du tir, bah, il faut au moins qu'il ait 2-3 attaques, quoi. Donc on marche sur la tête, quoi.
C'est pas assez rapide.
C'est de l'appel au meurtre.
Ouais, et puis après, dans le Briançon, dans le parc des Écrins, quand il y a des attaques de loups, qu'on veut mobiliser les agents, les lieutenants de louveterie, enfin, ce sont les agents du parc qui alertent un peu les écolos pour dire attention, ouais, ils vont venir pour tirer sur les loups. Enfin voilà, c'est.
Et les gars, ils viennent se foutre au milieu des battues, hein, quand même.
Ouais. Ça devient ingérable.
Ils ont des comportements dangereux, là,
les pro-loups. Les pro-loups, là.
Nos conos, là, tout fait mentou.
Ça devient ingérable. Et il y a un problème aussi qu'il faut qu'on prenne vraiment tous à bras-le-corps, c'est les chaînes de protection. Parce que leur mettre un statut, c'est bien. Il va falloir travailler sur le long terme, parce que quand même, il faut le reconnaître, les chiens, ils ont été imposés par la loi. Et aujourd'hui, il y a une telle demande de chiens que il y a des chiens qui sont un petit peu dangereux, quoi. Aujourd'hui, il faut quand même bien le reconnaître. Moi, je randonne beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Ça devient quand même très 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 difficile. Moi, j'ai mon gendre qui s'est fait mordre il y a peu de temps. Pourtant, il est sensibilisé à ça. Et on ne pourra pas continuer comme ça, à avoir un département à la fois tourné vers le tourisme, à la fois vers l'agriculture, à la fois vers... Et si on ne travaille pas sur ces lignées de chiens qui soient un petit peu mieux dressées, ça ne pourra pas continuer. Il va y avoir des conflits entre les usagers de la montagne qui vont être ingérables. Alors après, sur le loup... Aujourd'hui, il y a eu les rencontres de la Cinémathèque de Montagne il y a très peu de temps, et en avant-première, il y a eu la sortie du film de Jean-Michel Bertrand, qui a quand même fait, c'est son troisième film, et par rapport au premier, moi je trouve qu'il a quand même bien évolué. Mmh. Il a beaucoup évolué sur ça, et il dit des choses qui sont vraies. Aujourd'hui, il reconnaît qu'il y a trop de loups. Il reconnaît, et je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur des gens comme ça, parce que là maintenant il dit il y a de la concurrence entre les meutes et tout, donc c'est ces gens-là qu'il faut faire avancer le sujet. Parce que
oui.
Il dit les loups se développent moins parce qu'il y a trop de meutes, dont certains loups meutes détruisent les louveteaux de la meute d'à côté. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est arrivé à un point où c'est même plus supportable. Voilà. Donc, effectivement, il va falloir que les gens de l'OFB, les gens des parcs, fassent un petit peu leur mea culpa, parce qu'on s'aperçoit que ça, dans tout le monde, dans le monde entier, ça, sur cette question-là. Dans les parcs américains, dans les grands parcs, ils sont en train de revenir sur une des gestions des grands prédateurs parce qu'ils s'aperçoivent que les angulés disparaissent aussi. Donc, il va falloir un petit peu que les gens ouvrent les yeux et qu'on s'en sorte, quoi. Parce que nous, je ne pense pas que les agriculteurs, on soit acharnés à tuer du loup. Mais par contre, on veut continuer de vivre dans notre métier et continuer à le faire dans des sereinement. Parce que le plan loup ne prend pas non plus les préjudices moraux de cette gestion-là du loup. Ça va de plus en plus loin. Et aussi l'attitude des gardes, parce que l'Office de la biosécurité, de la faune et de la biodiversité, quand ils arrivent chez vous, ils sont quand même agressifs. On a eu des cas un petit peu violents ces dernières temps. C'est pas normal.
Quand ils interviennent, tu es présumé coupable, quoi.
Ouais.
Non, mais que ça soit un contrôle de chasse.
Mais la victime,
quoi que tu veux, c'est
la victime,
même sur
c'est
des éleveurs, quoi.
Pierre-Louis, tu voulais rajouter quelque chose?
Moi aussi, j'ai un peu évolué sur le sujet parce que je reconnais que j'y connais pas grand-chose, mais c'est vrai que par principe, j'aime pas tous ceux qui crient. Et j'apprécie
au loup.
Peu.
Oui, au loup. Au loup.
Donc j'appréciais peu les défenseurs absolus du loup. Mais maintenant, et je suis partagé parce que j'aime pas forcément la partie adverse non plus, parce que ce que je constate, c'est que en partant tôt faire du vélo dans les bois ou en rentrant tard le soir ou dans la journée, depuis des années, j'ai jamais rencontré un loup. Mmh. En revanche, depuis quelques années, ce que je constate,
t'as rencontré des chasseurs.
Bon, ça, c'est. Il y en avait avant, il y en a maintenant, mais il n'empêche que les coups de feu, je les entends plus qu'avant, et pourtant, je suis de plus en plus sourd.
Et les chiens. C'est les chiens qui les chiens, font peur.
Ouais, c'est vraiment préoccupant parce que, voilà, encore hier, tu vois, quand tu vois qu'il y a des moutons qui sont gardés par un chien méchant et
que
tu vois
des
barrières de partout et qu'à un endroit, la barrière, elle s'arrête. Parce qu'il y a des fourrés ou des choses comme ça, tu te dis, mais si le chien me court après, ben je suis peut-être pas mort, mais je serai mordu. Et ça, c'est assez préoccupant parce que ça fout la trouille. Et ça, en promeneur ou en vététiste, tu le rencontres de plus en plus. Ouais. Voilà. Il n'y a pas une journée où, quand tu vas faire du vélo, tu n'entends pas aboyer. Voilà.
Le seul problème, c'est que les éleveurs sont obligés de mettre de plus en plus de chiens. Il y a une telle demande qu'au début, on avait des patous. Après, tu as eu les bergers d'Anatolie, puis là, tu as des nouvelles races qui arrivent d'Espagne. C'est vrai qu'elles sont flippantes, hein, quand tu les vois. Moi, j'en ai vu qui étaient attachés à des rondins de bois qui traînaient derrière eux quand ils couraient. Ils volaient les rondins. Donc, c'est des belles bêtes. Mais ça veut dire que les loups, bon, ils font leur job. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas rester à côté d'un parc. En principe, ils sont bien dressés, ils ne sautent pas le parc. Hein. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en pleine montagne comme ça, j'entends
que... Je suis tombé une fois sur... Il était loin. J'ai vu au loin, il y avait des moutons. J'ai vu qu'il y avait un gros chien au loin. J'ai fait tout de suite demi-tour, quoi. Mais tout de suite, je ne me suis pas aventuré à passer, à me rapprocher.
Ouais, mais ce n'est pas la faute des éleveurs. Hein. C'est une conséquence. C'est une conséquence de ce plan loup. Et ça, il faut qu'on travaille sur des lignées de chiens qui fassent correctement leur boulot, mais qui fassent la différence entre un homme et un loup. Quoi. Parce qu'autrement, il y en a quand même. Des bons patous, il y en a, mais trop peu.
Voilà. Et comme on parle du loup, eh bien, en voici la queue. La sortie de...
Qu'est-ce qui se passe?
Non, rien.
La sortie de Jean-Luc Mélenchon.
On saute
du loup à l'âne, on va dire. Ouais. Avec donc Jean-Luc Mélenchon sur Rutel Krief. Vous avez suivi évidemment cette histoire. Il l'avait qualifiée de manipulatrice, de fanatique, suite à son interview sur LCI d'Emmanuel Bompard. C'était parti un peu. Disons que c'était une interview un peu musclée, quoi. Et évidemment, donc Jean-Luc Mélenchon n'a pas aimé, et donc il a qualifié Rutel Krief, trouvait pas normal qu'elle puisse agir ainsi avec son poulain. Alors là-dessus, il y en a un autre qui a réagi au tweet de Jean-Luc Mélenchon, c'est Gérard Larcher, un autre président, après celui qui est autour de la table aujourd'hui, le président du Sénat, Gérard Larcher, qui est monté au créneau, et voilà ce qu'il a dit. Alors, je suppose que vous avez suivi, mais on réécoute sa sortie.
Quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X
et qui se comporte de cette manière, qui en quelque sorte par sa parole crée un brasier qui peut enflammer, diviser, qui montre du doigt une de vos consoeurs, et on voit bien avec quelle allusion derrière, eh bien je dois dire que c'est inacceptable. Et c'est inacceptable. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain.
Vous lui dites quoi ce matin? Tais-toi.
Oui, ferme ta gueule.
Voilà, donc... Alors, est-ce qu'un président doit dire ça? C'est la question qu'on pose aujourd'hui.
Ben oui.
Est-ce qu'un président peut dire ça?
Non, mais c'est la chute de son explication, mais moi je partage complètement l'avis de Gérard Larcher.
Je veux dire, dans les termes, c'est pas un peu cru? Non, tu dis, ben non, arrive un moment, c'est bon, un chat c'est un chat, non, Jean-Luc, ferme ta gueule. En gros, c'est ça le message.
Oui, mais il a pas dit que ça. Il a expliqué avant. Mais surtout, moi, ce que je vois là-dedans, c'est la traduction un peu de ce que je vois, ce que j'entends à l'Assemblée nationale depuis 2 ans.
Oui, oui.
Je veux dire, il y a un tel niveau dans cet hémicycle que
c'est vrai que c'est compliqué.
Avec tous les députés insoumis là, qui en fait, c'est pas un discours. C'est une honte pour les Français. C'est une honte pour nous. Mais c'est une honte. Je veux dire, quand j'imagine. Que peu des collègues, peu de collégiens, peu de lycéens regardent les débats à l'Assemblée nationale.
Eh bien, heureusement.
Sinon, heureusement, parce que c'est pas un bel exemple à donner. Et donc, après, il y a des sorties comme ça. Et puis, à la fin, quand même, le deuxième personnage de l'État, eh ben, sur sa chute, au moins, il a dit quelque chose que tous les Français comprennent.
Ah oui, ça, voilà. Je pense qu'il a été très clair.
Et moi, je l'ai félicité pour ça.
Patrick?
Ouais, je pense qu'il a traduit l'exaspération de ceux qui sont contre Mélenchon. Donc c'est vrai que moi aussi j'avais envie de dire ça. Et, à la limite, il a dit ça m'a soulagé, j'ai pas à le dire. Mais c'est vrai qu'au sein de mon foyer, des fois tu es devant la télé, tu dis mais ferme ta gueule. C'est insupportable. C'est vrai que tu fais plus toi en principe dans un cercle restreint.
Oui, voilà. C'est ça, exactement.
Après, bien, pas bien, ouais, pas bien, d'accord, parce que c'est le président du Sénat. Voilà.
Ouais.
Après, de là jeter Claude Dubin, je pense pas, quoi. Il a traduit quelque chose d'assez. L'exaspération de beaucoup, quoi.
Bruno?
Ouais, mais Mélenchon, c'est son fond de commerce. Il utilise les médias, il fait le buzz, il cherche. Moi, c'est un peu. Puis bon, c'est vrai que le comportement des députés à l'Assemblée nationale, il est quand même. On peut pas dire. Je suis pas sûr que ça les serve beaucoup. Hein.
Ouais.
Au final, ça leur sert pas beaucoup. Après, bon, Gérard Larcher, il a peut-être aussi poussé un peu le bouchon un peu loin. Mais après tout, il a insulté personne. Hein.
Les derniers sondages de LFI sont largement moins bons qu'il y a un an, voire 2 ans en arrière.
Le problème de Mélenchon, c'est qu'il s'est trompé de stratégie.
Ouais.
Aujourd'hui, il n'est pas élu, il n'est pas entendu,
ouais.
Il n'a pas de tribune.
À la différence de Marine Le Pen, qui, elle, rien depuis un an.
Il se voyait premier
moins
ministre.
Moins elle parle, plus elle monte.
Il se voyait Premier ministre, il est rien du tout. Donc, bon, il a raté son coup, quoi, c'est tout.
Pierre-Louis ?
Il a mauvaise.
Je ne suis pas un spécialiste de la communication, mais il y a une chose que je sais, c'est que ce qui est important, c'est la cible. Quand tu parles comme ça à sur une radio de grande écoute, quand tu as un message qui n'est pas celui que tu as habituellement, c'est que tu veux communiquer fort. Et là, on peut se demander s'il a voulu communiquer auprès de son public, auquel cas... C'est entendable, même si le vocabulaire n'est pas le même qu'il a d'habitude, mais c'est entendable. Il dit à son public, à ceux qu'il aime, je veux pas me laisser faire par un gars comme Mélenchon, donc je vous dis que ce que je pense, moi, c'est que je lui dis, mais pour que vous m'écoutiez, vous, ferme ta gueule. En revanche, si c'est à destination, comme on pourrait le croire au premier degré, à destination de Mélenchon, c'est pas très adroit. Parce que, pour le coup, son public pourrait entendre qu'il se met à la hauteur de Mélenchon. Et pour un politique comme lui, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de se mettre à la hauteur.
Non, mais ça peut être une stratégie de se mettre à la hauteur et d'employer le même langage ou presque.
Alors, je dirais oui si finalement les Français étaient tous des couillons, mais comme je le pense, non. Au contraire, ils mûrissent, et on le voit dans les votes. Personne, enfin en tout cas il y a de moins en moins de monde qui ont envie de se mettre à la hauteur de Mélenchon. Mélenchon, il se fait du mal tout seul. Je veux dire, quand on voit les derniers sondages, d'accord, mais les dernières élections non plus, c'est pas folichon. Et en fait, plus il s'enfonce, moins il adora, plus il est obligé de crier. C'est la vie, ça, c'est comme ça. Hein. Plus vous êtes loin des gens, plus vous êtes obligé de crier. Donc il faut le laisser crier, mais il ne faut pas crier comme lui, parce que Mais c'est, encore une fois, ce n'est pas une critique, parce que si Larcher s'est adressé à son public, c'est bien vu. Voilà, parce qu'on en a marre que les politiques, de temps en temps, ne fassent pas des messages à la Coluche ou des choses comme ça, parce que ça nous manque
un peu. Qu'ils fassent du politiquement correct.
Voilà,
parfois, oui. Patrick Faure, vous avez quelque chose à rajouter, mon petit patounet.
Non, mais c'est vrai que tu entends de Mélenchon ou même Bompard, qui a beaucoup plus le micro, du coup, de par son
statut. Oui, puisqu'il est élu, lui.
C'est vrai que quand tu l'entends parler et qu'il se retrouve en interview, il remet en cause même l'essence du journalisme, quoi.
Oui, oui.
Le fait qu'on puisse lui poser des questions gênantes et tout. Mmh. Et je veux dire, à la limite, se ferme ta gueule, c'est en général à LFI, quoi. C'est... ferme ta gueule ou et une attitude correcte, quoi. Moi je l'ai pris en ce sens. Comporte-toi comme un politique et fais passer tes idées, quoi. Mais arrête de dire que le système dans lequel tu es et dont tu te nourris, il est pas bon, quoi. Voilà.
Et on va terminer avec un dernier sujet. Je voulais vraiment en parler. C'est une étude qui montre que les salariés français à temps complet, hein, sont presque les moins travailleurs d'Europe. Alors, seule la Finlande fait moins bien aujourd'hui. Si on prend tout en compte, hein, c'est-à-dire la durée légale, les heures supplémentaires, les vacances, les RTT, les arrêts maladie, les congés parentaux, le salarié français travaille dans les faits 1668 heures par an en moyenne, soit 124 heures de moins que la moyenne européenne. Alors, je voulais parler de ça parce que on a un employeur, évidemment, à côté de nous. Pierre-Louis Rouni.
On l'est tous, hein.
Non, mais président. Oui, président aussi. Mais là, on est dans une entreprise privée. Ouais, voilà.
Ça me tue parce que comme tu l'as souligné, c'est important. Quand il y a des sondages comme ça, c'est important quand même de savoir ce qu'il y a derrière. Et l'assiette tient compte des arrêts maladie. Vraiment, s'il y a quelque chose qu'on peut reprocher à la France, c'est qu'elle est souvent à deux vitesses. Mmh. Voilà. Parce que, bon, de fait, si en moyenne, on est les travailleurs les moins actifs en temps, je ne pense pas qu'on soit les moins productifs. Mmh. Et si, justement, on est les moins productifs, c'est parce que ceux qui pédalent à la place de ceux qui ne pédalent pas, parce que, voilà, ils sont normalement malades ou normalement dans une incapacité de travail, et bien, comme il y a du boulot à faire, ceux qui travaillent sont obligés de pédaler deux fois plus. Voilà. C'est ça qui est assez préoccupant. Alors, je ne voudrais pas qu'on me prête l'envie de faire une polémique sur ceux qui ne travaillent pas. Et parce qu'en plus, je ne suis pas suffisamment savant pour savoir pourquoi il y a autant de personnes qui ne travaillent pas et qui font qu'il y en a quelques-uns qui travaillent plus que la normale. C'est quand même pas une situation juste, parce que ça, c'est comme toutes les discussions que l'on a eues jusqu'à présent. S'adresse des Français contre
des
les
Français.
Autres. Voilà. Ouais. Donc, en gros, quand tu es un travailleur et que tu te donnes à fond pour ton entreprise et que tu vas très très vite et que tu vas très très fort et que tu entends ça, ça te donne envie de changer de camp.
Attends.
Ça, c'est pas bon.
Je voudrais seulement rajouter quelque chose. Là, c'est sur l'employé lambda. Mmh. Les commerçants, les artisans, professions libérales, micro-entrepreneurs, eux sont parmi ceux qui travaillent le plus en Europe.
Ouais, mais les patrons, on travaille fort, mais on ne travaille pas plus que les bons collaborateurs.
Enfin, non,
est tous dans des équipes. Enfin, si une entreprise fonctionne bien, c'est bien parce que tout le monde pédale fort.
Voilà, j'ai voulu... piocher un petit peu, aller voir ce qu'en pensaient les économistes, parce que c'est important d'avoir l'avis d'un professionnel de la profession, hein, tu sais, comme ils disent à chaque fois qu'ils remettent les Césars, les professionnels de la profession. J'en ai trouvé un, Frédéric Farah, qui explique que les Français ne sont pas les plus paresseux, ils sont fâchés parfois avec le travail. Ils sont fâchés quelquefois avec le travail, c'est pas la même chose. Bon, ils estiment que la rémunération n'est pas suffisante, que la reconnaissance n'est pas au rendez-vous, et en plus ils travaillent dans des cadres où la pression augmente, et c'est faux de dire que plus on travaille, plus la productivité augmente. C'est ce que tu disais à l'instant. Donc voilà, en fait, il y a un problème de rémunération, de reconnaissance et de pression. En gros, on se retrouve avec... question, Jean-Marie.
Moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est le décalage qu'il y a entre les demandeurs d'emploi et puis les emplois qui sont pas fournis.
Oui, oui. Voilà.
Donc, c'est ça j'ai du mal à m'expliquer pourquoi il y a des emplois aujourd'hui qui ne sont pas pourvus et pourquoi il y a des gens qui sont au chômage.
Je t'annonce 3. 1, rémunération. 2, reconnaissance. 3, pression. C'est-à-dire qu'il faut maintenant un salaire qui soit suffisant. il ne faut pas trop de pression, il faut un aménagement des horaires, etc. Et il faut à l'arrivée aussi une reconnaissance qu'on n'a pas tous là où on travaille, d'avoir un patron qui est reconnaissant. Donc voilà, en gros c'est ce qui ressort de cette analyse de Frédéric Farah, donc cet économiste.
Si tu considères que ton salaire n'est pas suffisant, c'est que tu as pris des engagements autres. Or, soit tu as eu un accident de la vie et tu as dû régresser, mais en principe, normalement, tu gagnes de l'argent et tu investis en fonction de tes moyens. Mmh. Donc, c'est jamais suffisant parce qu'on a toujours des ambitions, mais voilà, ça me pose un peu problème, ce genre de réflexion. Après, c'est vrai que quand tu regardes dans l'hôtellerie, dans la restauration, ils sont en manque total
de
main-d'œuvre, et ils ont vraiment du mal à boucler leur.
Et pourtant, c'est un des secteurs qui a le plus augmenté au niveau des salaires.
C'est des secteurs où il y a une très très grosse demande.
D'une part, au niveau des salaires, au niveau des aménagements aussi des horaires.
Tu as des gens qui gagnent 1 800, 2 000 euros en termes de vendeurs, de cuisiniers. Enfin, je trouve que c'est quand même des salaires. Enfin, moi, je parlais des Hautes-Alpes. Hein.
Tout à l'heure.
C'est quand même un niveau. Assez, je parle du net. Hein. Je parle pas de brut, parce que ça, après ça parle au patron, mais qui sont quand même assez intéressants, et je comprends pas, quoi.
Tout à l'heure,
si t'es vraiment dans la mouise, tu y vas, quoi.
En plus, tout à l'heure, c'est toi qui dodelinais, là, tu sais, quand on parlait avec Jean-Marie de la route et des points noirs qu'il pourrait y avoir, et là, j'ai vu Bruno dodeliner, hein, et dodeliner comme ça.
Ouais, parce que moi, j'apprécie pas forcément ces statistiques-là, en disant, bon, je pense que les travailleurs français travaillent. C'est ce que tu disais, Pierre-Louis, il y en a qui bossent. Ceux qui bossent, il y en a qui bossent parce qu'on a un vrai problème sur la reconnaissance du travail. Et puis, tu as soulevé trois points. La reconnaissance.
La reconnaissance, la pression et le salaire.
Oui. Et le quatrième?
Le quatrième, peut-être c'est la protection sociale.
Non. Le quatrième, c'est peut-être que les travailleurs, ici, il faut qu'ils arrêtent quelque part de venir chercher un salaire, mais qu'ils aient conscience qu'ils ont un emploi. Parce qu'ils ont aussi des obligations vis-à-vis de leur employeur. Et ça, j'ai l'impression qu'ils n'en parlent jamais. Parce que il faut que on a l'impression que les salariés ont tous les droits et que les chefs d'entreprise, ce sont des tyrans. Mais non, pas du tout. Tu vois ce que je veux dire?
Ah oui.
Et ça, ça pose problème, quoi. J'ai l'impression que...
Tu vas te faire des copains.
Mais oui, mais quelque part. Mais il y a des gens qui travaillent très bien. Il y a des gens qui travaillent très bien et qui travaillent, mais il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est presque un gros mot de dire qu'on travaille, qu'on aime son métier. Mais c'est tout ça, ça devrait faire partie des choses, quoi, normales. Je veux dire, il y a des réclamations de la part de salariés qui ne sont pas...
Recevables,
parce que ça va trop loin, quoi. Je veux dire, il faut aussi que quelque part... On arrive à partager la richesse, mais ça, je pense qu'on en a dans les entreprises, on arrive à le faire, à intéresser nos personnels à la rentabilité de l'entreprise et tout. Mais à un moment donné, il faut aussi que les gens comprennent que quelque part, il faut que le travail soit fait pour que l'entreprise fonctionne. Parce qu'il y a trop de gens qui pensent que on peut aller. L'entreprise, c'est un jackpot sur lequel tu tires et puis ça tombe. Mmh.
C'est un peu ce qu'on appelle avant la conscience professionnelle qu'on n'a plus.
Exactement, voilà, c'est ça, c'est que bon, j'ai un boulot, j'ai de la conscience professionnelle, il faut que je en fasse, il faut que je réalise le boulot pour lequel je suis payé.
Il y a un autre vecteur qui revient aussi souvent, et ça tu peux peut-être en parler, Pierre-Louis, c'est la pénibilité.
Y a une loi qui existe, qui oblige les entrepreneurs à mesurer la pénibilité. Personnellement, ça ne m'a jamais plu. Je vais t'en donner la raison. C'est parce que je pense qu'on n'est pas tous égaux par rapport à la difficulté de la tâche que l'on nous donne. Déjà, c'est une question de niveau. C'est-à-dire que le travail soit cérébral ou qu'il soit physique, on n'a pas tous le même cerveau, tous les mêmes muscles et tous la même endurance, que ce soit pour le cerveau ou les muscles. Donc, comme on n'est pas tous égaux et qu'il me semble que quand on fait une loi, on devrait penser à tout le monde... Si on tient compte du fait que tous les métiers ne se ressemblent pas par rapport à ces difficultés, et qu'en plus tous ceux qui embrassent ces métiers en travaillant dans ces métiers n'ont
ne
pas
sont
les
pas
mêmes,
tous pareils.
Ça veut dire que on part dans des situations où là aussi on va diviser les Français. Parce que quand tu es à dessein, je prends la SNCF. quand on entend toutes les polémiques qu'il y a eu sur la SNCF, je veux dire, je suis à peu près sûr qu'il y a des gens qui travaillent à la SNCF qui ont des raisons peut-être de se plaindre de leur boulot, parce qu'il y a des horaires décalés, etc. Et donc, mais tu les mettras jamais d'accord avec, d'une manière générale, avec les gars du bâtiment qui se lèvent tôt le matin et qui vont porter des choses lourdes toute la journée, qui pleuvent, qui ventent, etc. Donc, il me semble qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'un bon patron, il est sûr que, enfin, il a cet avis tous les jours que si ses équipes, il leur en donne trop, elles dureront pas, et donc sa boîte ne durera pas. Ça, c'est sûr. Si tu récompenses pas tes collaborateurs, ils se barrent. Si tu les payes mal, ils se barrent. C'est comme ça. En plus, il y a de plus en plus le choix de trouver un boulot parce que tout le monde cherche. Ça me paraît un peu. Enfin, c'est un sujet qui vient faire oublier le vrai sujet de maintenant, cette histoire de pénibilité. Voilà. Mais d'ailleurs, hein, la loi est sortie, c'est une obligation pour tous les chefs d'entreprise, mais c'est comme pour beaucoup, hein. Qui contrôle ce qui est fait ? Non, mais c'est vrai, qui contrôle ce qui est fait ? Et surtout, qui contrôle la pertinence de cette mesure ? Personne. C'est au niveau du chef d'entreprise qui, si un jour on lui intente un procès parce qu'il a mal mesuré, alors qu'il c'est pas un spécialiste, hein, et ben on lui dira c'est ta faute mon coco. Voilà. C'est pas très juste. Voilà.
C'est pas défini la pénibilité parce qu'elle peut être physique, morale. Je veux dire,
oui, puis on n'est pas tous pareils. En fait, c'est vraiment pour noyer le poisson parce que les problèmes sont tout autres. Hein. Franchement.
Je pense que la pénibilité, à un moment, elle disparaît dans la mesure où tu as trouvé du sens à ton travail et dans lequel tu te dis, je suis fait pour ça. Alors, que Thierry, qui fait 4 heures du matin à 22 heures le soir, je l'entends pas se plaindre de dire que c'est pénible parce que ce qu'il fait, ça lui plaît. Quoi.
Oui.
Bon, il fait la sieste en retard, il va à la salle de sport et tout. Mais en attendant. Je pense que pour moi, je ferais ça, ça serait vraiment pénible. Quoi. Me lever à 4h du matin, c'est même pas possible. Quoi. Alors je me couche, non.
Je pense qu'on a, je pense qu'on a en fait des problèmes de riches. Ouais. Parce que c'est comme pour tout. Hein. À partir du moment où tu as le choix, tu vas te plaindre. Mmh. C'est comme ça, c'est comme ce que tu as dans ton placard. Si tu as que des pâtes, et que tu sais que tes voisins ils ont que des pâtes et que tout le monde a que des pâtes, tu vas dire les pâtes c'est génial. Si dans les réseaux sociaux,
sauf si t'as des spaghettis, que t'as des tortellini, que tu préfères les tortellini.
Tu vois, alors ça,
mais
tu vois,
non, ça, mais c'est encore ça. Quoi.
Non, mais c'est génial ce que tu dis parce que ouais. Ça pour le coup c'est le vrai sujet de la pénibilité. Mmh. C'est-à-dire que quand tu veux pas répondre à la question, tu dis ouais mais il y a des différences entre les pâtes. Voilà. Si t'es comme moi, tu dis mais moi je suis désolé, il y en a qui aiment les spaghettis et c'est pas le problème, ça va pas régler le problème de savoir si c'est normal que t'aies pas de viande dans ton placard. Enfin la viande dans le placard c'est pas top, mais réjouissons-nous. Parce que tous les soucis que l'on a qui créent de la polémique, hein, ben c'est parce qu'on a de la chance. Parce que si on était en Ukraine, alors il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est sûr que si tu vas chercher tous les problèmes de la planète, tu vas trouver qu'on est heureux. » Oui, enfin, c'est peut-être exagéré, mais c'est pas faux non plus.
Merci beaucoup Jean-Marie Bernard.
Merci à toi.
C'est sympa d'être venu. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci les gars. Hein. Pierre Louis Rougnier était avec nous, Patrick Faure et Bruno André. Passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine.